Aujourd'hui 18 septembre, voici le journal de Jérôme Cadet. Bonjour Jérôme.
Bonjour Eric, bonjour à tous. À la une ce matin, les chasseurs haussent le ton. Manifestation dans plusieurs villes de France contre l'interdiction de chasse traditionnelle. Des chasseurs bien décidés à profiter du contexte électoral pour se faire entendre. Moins de 60% de vaccinés en Seine-Saint-Denis, plus de 80% dans certaines villes du Finistère. On détaille la carte de France du vaccin. Il rentre à la maison, Paris rappelle ses ambassadeurs en Australie et aux États-Unis dans la crise des sous-marins. Décision plus symbolique qu'efficace, nous dira un spécialiste des relations internationales. La disparition d'Abdelaziz Bouteflika, l'homme qui dirigea l'Algérie pendant 20 ans avant de renoncer face à la rue. Et puis une femme, une seule au guidon aujourd'hui sur le circuit du Castellet pour le Bol d'Or. L'épreuve mythique d'endurance moto sont portées à la fin du journal.
Les invités de cette matinale, dans 20 minutes, Karine, vous recevrez...
Alors direction l'Elysée, à 7h50, rencontre et interview avec un immense artiste français, Daniel Buren. Tantôt admiré, tantôt contesté, il vient de réenchanter le jardin d'hiver du palais présidentiel.
À l'occasion des journées du patrimoine. Et puis à partir de 8h20, question ce matin à Éric Ciotti, député Les Républicains. Il est candidat pour représenter son parti à la prochaine présidentielle.
France Inter.
Les chasseurs sont donc dans les rues aujourd'hui.
Oui, loin des futaies, des taillis, ils ont choisi de marcher dans plusieurs villes de France, notamment Mont-de-Marsan et Amiens. Alors Emmanuel Macron multiplie les gestes depuis le début de son mandat, prix du permis de chasse divisé par deux, volonté affichée cette semaine de réautoriser certaines chasses traditionnelles, mais rien n'y fait, Farida Noir, les chasseurs ne décolèrent pas.
L'interdiction de la chasse à la glu, des chasses traditionnelles d'oiseaux jugées illégales par le Conseil d'État, s'en est trop pour les chasseurs qui s'estiment stigmatisé, ostracisé. Thierry Delefoss, directeur de la Fédération des chasseurs de la Somme, parle même de la montée d'un intégrisme anti-chasse.
On est de plus en plus attaqué, sans arrêt critiqué. Ça devient insupportable. Vous savez, quand on voit des gens qui sont prêts à faire des actes pour nous saboter, pour nous casser nos installations, nos véhicules, etc., on est confronté vraiment à une forme d'intégrisme. Ça commence à bien faire, quoi.
Des chasseurs hostiles à Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, dont beaucoup demandent la démission. Une ministre de tutelle qui ne les soutient pas, dénonce-t-il. À cette vitesse, la pratique va se réduire à peau de chagrin et les traditions disparaître, dénonce Thierry Delefoss.
On se dirige vers une pratique qui est de plus en plus compliquée. Ça devient impossible de pratiquer la chasse sans être en infraction pour telle ou telle chose, tellement c'est complexe. Il faut avoir un ordinateur pour aller à la chasse maintenant. Donc on voudrait des réglementations en adéquation avec la réalité de terrain, puis qu'on nous foute un peu la paix, quoi, parce qu'on n'est pas les mauvais élèves de la classe, quoi qu'on en dise.
Plusieurs milliers de manifestants venus de tous les Hauts-de-France devraient être présents à Amiens ce matin, selon la Fédération.
Farida Noir, autre mobilisation aujourd'hui, celle des opposants au pass sanitaire. 180 manifestations prévues partout en France pour la 10e semaine consécutive. Mouvement qui s'essouffle, ils étaient 120 000 dans les rues la semaine dernière, 230 000 début août. Dans le même temps, les Français continuent de se faire vacciner. 50 millions ont reçu au moins une dose du vaccin sur 58 millions de personnes de plus de 12 ans qui sont éligibles. La barre des 50 millions symbolique a été franchie hier, deux semaines au-delà de la date initialement fixée par le gouvernement. Mais l'objectif est atteint, même si, Victor Vasseur, les disparités restent grandes d'un département à l'autre.
À commencer par l'Île-de-France, certains de ces départements ont un taux de vaccination parmi les plus faibles. En Seine-Saint-Denis, selon l'assurance maladie, à peine 60% de ses habitants ont reçu une première dose. Le nord des Hauts-de-Seine et l'est de la Seine-et-Marne sont également bien moins vaccinés. Est-ce l'éloignement de centres de vaccination? C'est l'une des hypothèses. Par exemple, dans les Yvelines, 75% des plus de 80 ans ont au moins une dose, quand la Vendée et l'Ille-et-Vilaine sont à 95%. Parmi les départements qui accusent du retard, tracer une diagonale entre l'Ariège et les Hautes-Alpes en descendant vers les Bouches-du-Rhône, mais aussi dans l'Est, autour de Mulhouse. Les chiffres sont bas, moins de 70% de la population totale est vaccinée. Et puis les bons élèves, comme en Normandie, dans les départements de la façade atlantique, en Bretagne, avec près de 80% de tous ses habitants primo-vaccinés, enfants compris donc, l'un des records de la vaccination se trouve à la pointe du Finistère Nord.
Victor Vasseur, cette carte pour observer l'avancée de la vaccination en France, c'est à lire sur franceinter.fr. Hier, l'APHP, l'assistance publique hôpitaux de Paris, a présenté ses excuses à ses patients. 1 400 000 personnes dont les données personnelles ont été volées. Elles avaient effectué un test de dépistage à la mi-2020 en Ile-de-France. L'APHP a déposé plainte.
L'actualité ce matin, Jérôme, c'est aussi la crise diplomatique qui s'accentue entre la France, les États-Unis et l'Australie.
Oui, deux jours après le coup dans le dos, pour reprendre l'expression de Jean-Yves Le Drian, la France rappelle ses ambassadeurs en Australie et aux États-Unis pour consultation. C'est un geste inédit, même au plus fort de la crise irakienne en 2015. 2003, Paris n'était pas allé jusque-là avec Washington. La diplomatie française ne digère pas le revirement australien, le méga contrat d'achat de 12 sous-marins déchirés au profit d'un partenariat avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Alors cette décision peut-elle changer les choses ? Absolument pas, mais la France devait de réagir, analyse Pascal Boniface, directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
C'est juste de sauver la face, parce qu'effectivement, on a été trahi. Et les mots, tant des responsables australiens qu'américains, de dire que l'alliance avec la France reste solide, est une façon d'ajouter une insulte supplémentaire par rapport à ce qui s'est passé dans notre dos. Et effectivement, entre alliés, on ne se comporte pas ainsi. On ne fait pas quelque chose de cette façon dans le dos une fois qu'un accord a été conclu. Et donc, c'était la moindre des choses de faire cela. Et en même temps, ça ne va pas changer le cours des relations et le cours du contrat. Mais la France ne pouvait pas rester totalement inactive par rapport à ce camouflet. Et au moment où on estimait qu'avec Joe Biden, on avait une relation plus multilatérale, la période compliquée avec Trump est déterminée, ben on voit quand même que le tropisme unilatéral des États-Unis, aussi bien après le retrait de Kaboul sans avertir les alliés que là en jouant contre un allié, et ben finalement ce tropisme reste important, y compris avec Joe Biden.
Pascal Boniface avec Victor Maté. Pascal Boniface qui parle du retrait américain d'Afghanistan. L'armée américaine a reconnu hier que sa dernière frappe fin août à Kaboul, qui avait tué 10 civils, dont jusqu'à 7 enfants, était, je cite, une erreur tragique. La mort de l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika. Il s'est éteint hier à l'âge de 84 ans. Bouteflika, chassé du pouvoir en avril 2019 par la rue et l'armée, après 20 ans à la tête du pays, il avait participé à la guerre d'indépendance avant de devenir ministre en 1962, mais il était, depuis une attaque cérébrale en 2013, fortement diminué.
Allez, avec une question maintenant, le budget course, le budget commission des Français, va-t-il flamber ces prochains mois ?
C'est l'enjeu des négociations commerciales annuelles qui débutent dans quelques jours, début octobre, face à face la grande distribution et ses fournisseurs. Ils vont devoir se mettre d'accord sur les prix. Ces discussions sont toujours tendues, mais cette année, la flambée des prix des matières premières alimentaires change la donne. Agriculteurs et industriels ont déjà fait savoir qu'ils exigeraient des hausses de tarifs. La grande distribution, Manuel Ruffet, se prépare à un rude combat.
La grande distribution est arc-boutée en position de guerre parce que ça va cogner. Comme à son habitude, Rodolphe Bonnaz, grand connaisseur du secteur, va droit au but. La distribution n'a pas le choix, explique-t-il. Après la situation géographique, le premier critère des consommateurs, ce sont les prix. Pas question d'accepter des augmentations qui viendraient percuter le pouvoir d'achat des Français. Pouvoir d'achat, le terme est lâché, c'est l'argument majeur des distributeurs. Jacques Ressel, le délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution, reconnaît pourtant qu'objectivement, avec la hausse des matières premières, il y a de bonnes raisons d'augmenter les tarifs. Mais il faut être raisonnable, complète-t-il. Les grands industriels, selon lui, se sont bien sortis de la crise. Ce sont eux qui ont les plus fortes marges, à eux de faire des efforts. Sous couvert d'anonymat, un porte-parole d'une grande enseigne ajoute « On tient bon ». La rentrée était suffisamment difficile pour nos clients. On tient bon et on tiendra jusqu'au bout.
Et il sera question de ces négociations commerciales annuelles dans On n'arrête pas l'écho après le journal de 9h avec Didier Duhaupo, président du groupe Les Mousquetaires, qui sera l'invité d'Alexandra Ben Saïd. Les sports, Strasbourg domine le derby de l'Est hier soir en Ligue 1 de football, succès 3-0 face à Metz. Cet après-midi, autre derby, Lens-Lille à 17h. La Ligue 1 et sa nouvelle star, Lionel Messi, dont le journal L'Équipe révèle ce matin le salaire au Paris Saint-Germain, 110 millions d'euros nets sur 3 saisons, soit autant, nous dit le quotidien sportif, que ce que lui proposait le FC Barcelone, son ancien club. Sur le circuit du Castellet dans le Var, là c'est le retour du Bol d'Or ce week-end, épreuve d'endurance moto la plus ancienne au monde, et parmi les quelques 120 pilotes au départ, une seule femme, la franc-comtoise Amandine Creusot. Jérôme Val.
Il y a 2 ans, sur le précédent Bol d'Or, 6 femmes avaient pris le guidon d'une moto dont un équipage 100% féminin. Cette année, Amandine Creusot sera la seule pilote, comme elle était la seule femme lors des derniers 24 heures du Mans.
Aujourd'hui, d'être la seule, ça me fait rien de plus parce qu'en fait, mes objectifs sont les mêmes. Je me bats avant tout contre moi-même. Je me bats aussi pour l'équipe, pour mes coéquipiers. Ça change pas grand-chose d'être la seule femme.
Celle que l'on surnomme la tornade pilote depuis une dizaine d'années, et pour Amandine Creusot, ça devient de plus en plus compliqué.
Il y en a des femmes qui peuvent prétendre à cette place. Après, là, clairement, ça devient compliqué. Il y a une course à l'armement en termes de machines, de performances, de pneumatiques, de top pilotes. Et ça a grandi les écarts, en fait, avec les petits teams comme nous. On essaie de tenir bon, mais c'est vraiment pas facile.
D'ailleurs, il n'y a aucune femme pilote dans les catégories reines, mais cela ne veut pas dire que les femmes sont invisibles pour Sophie Casanova, l'organisatrice du Bol d'Or.
On se rend compte qu'on a aussi beaucoup de femmes dans les teams, parce qu'il y a ceux qui pilotent, mais il y a tous ceux qui encadrent les team managers, les mécaniciens, il y a beaucoup de femmes qui sont impliquées dans la compétition indirectement.
Et pour Amandine Creusot, l'objectif, une nouvelle fois, sera de rallier la ligne après 24 heures de course.
Avec le retour du public sur ce bol d'or, entre 60 et 70 000 personnes attendues.
Et ça roule avec Jérôme Cadet pour le journal Le Temps de ce samedi.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Eh bien, ce sera Mossad à l'ouest aujourd'hui, Jean-Michel, hein, Golinski.
Et c'est vrai, ouvrez les parapluies sous un ciel déjà Mossad actuellement, de la Bretagne à l'Aquitaine, Midi-Pyrénées, avec même quelques orages, ci ou là, sur le sud de la Garonne. En cours d'après-midi, ce temps perturbé, souvent orageux au sud de la Loire, va gagner Rouen, Paris, Bourges, Clermont-Ferrand ou encore Carcassonne. Dans un air plus frais qu'hier, avec une baisse de l'ordre de 3 à 4 degrés. Plus à l'est, là, maintient la temps sec et ensoleillé, avec 23 à 24 cet après-midi sur les Hauts-de-France, 25 de Champagne-Ardenne au Grand Est et à Rhône-Alpes, jusqu'à 27 pour le Gard, la Corse et les Bouches-du-Rhône.
Jean-Michel Golinski, Météo France.